Loire possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La résistance active a été la résistance des résistants d'avant-guerre. Qui est-ce qui s'est battu avant la guerre? Qui est-ce qui s'est battu contre les patrons? Qui est-ce qui s'est battu contre l'État? Qui est-ce qui a toujours été persécuté contre l'État? La résistance active, comme les archives étatiques, militaires le prouvent, cette résistance est une résistance populaire à base ouvrière fondamentale. Ce qu'on appelle la résistance active, c'est essentiellement la résistance communiste. C'est pas parce que Marx est un gros vilain qui crée les luttes de classe. C'est pas les marxistes qui créent les luttes de classe. C'est les conditions objectives qui créent les luttes de classe.
C'est pas que le marxisme explique tout, mais ça éclaire quand même pas mal de choses. Les exploités, les exploiteurs, les pauvres, les riches qui font tout pour le rester et même l'être encore plus en écrasant les pauvres qui se laissent pas faire grâce aux communistes. Salut, c'est JBD, c'est la voix off, toujours avec l'historienne Annie Lacroix-Riss, professeure émérite à l'université Paris 7, qui, en cherchant et en croisant d'impitoyables archives, démontre l'effarante et effroyable responsabilité de la haute bourgeoisie industrielle et bancaire dans les malheurs qui frappent la France entre les années 20 et 40. Trahison, collaboration et gros pognon. Histoire douloureuse écrite preuves à l'appui, où la chercheuse établit que dès l'été 41, l'essentiel de la résistance française, c'est la résistance communiste, sans laquelle De Gaulle ne pèse rien face aux alliés qui ne veulent pas de lui. Une résistance communiste convaincue par Jean Moulin de s'unir au général, unification de la résistance que Jean Moulin paiera de sa vie, trahi par un résistant français.
La clarté sur l'affaire Moulin, je l'ai faite. Hein. On ne peut pas avouer qu'une partie de la résistance a décidé d'en sacrifier une autre.
Jean Moulin a certes été assassiné par le flic SS Klaus Barbie. Mais Moulin a été trahi et donné à Barbie par René Hardy, résistant français du mouvement Combat. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment et pourquoi Annie Lacroix-Riss. Bonjour.
Bonjour.
Assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auquel on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Composé en 1940 par Django Reinhardt, pour ouvrir cette suite de notre saga populaire autour du Congrès de Tours, survol de la terrible histoire du Parti communiste français combattu par tout le monde, y compris par les socialistes, jusque dans la guerre.
de Pétain parle à la France.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Voyez-moi, vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Dans les bras du communisme, dans les bras du communisme, dans les bras...
On va aujourd'hui continuer à parler de la réalité de la résistance française, c'est-à-dire, dès l'été 41, de la résistance militaire communiste qui est jusqu'en 43 la seule résistance active malgré son manque d'armes, car les alliés ne veulent surtout pas en donner aux rouges. Donc, pour peser face aux alliés qui le détestent, De Gaulle n'est rien sans les FTP, francs-tireurs partisans communistes, qui resteront longtemps seuls à combattre fascistes allemands et français, car les forces nazies sont peu nombreuses en France. Ce sont les polices, gendarmeries et milices françaises qui assurent la répression pour l'occupant. En 1943, quand tout le monde a bien compris que les carottes sont cuites pour les nazis, d'autres mouvements se revendiquant résistants entrent alors tardivement en scène. Annie Lacroix-Riss.
J'ai été critiquée parce que je montrais, archives aidant, que la résistance communiste était la seule résistance active. Jusqu'en 43, j'ai quand même utilisé largement des rapports des préfets très clairs sur ces questions. Contre les Allemands, il y a quoi ? Il y a les attentats, il y a les sabotages. Qui fait les sabotages ? Les FTP. Il n'y a pas d'autres traces. Parce que les FTP, c'est les seuls. Qu'est-ce qui a été efficace contre les Allemands ? Les attentats et les sabotages. C'est tout. Parce que les bombardements américains
et anglais
qui ont fait 75 000 morts, ont été une catastrophe du point de vue de la France. Parce qu'ils n'ont atteint en rien le potentiel militaire de l'Allemagne. Par contre, on peut, avec des sabotages, empêcher une usine de tourner pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Que disent les rapports que les bombardements américains commençaient à provoquer des sentiments anti-américains ? Les correspondants du BCRA disaient, entre février et mai 44, si les Américains ne débarquent pas, on ne répond plus de rien. Hein.
Ainsi, pour la première fois, la ville même de Paris a été bombardée par l'aviation anglo-américaine. De nombreux foyers parisiens sont en deuil. Plus de 100 morts, 225 blessés, tel est le bilan.
Il y a eu des bombardements meurtriers, mais inouïs, des milliers de morts. Zéro conséquence pour l'Allemagne. Rien de rien. Alors que, entre attentats, non seulement contre les Allemands, contre les complices des Allemands. Avec quoi ils sortaient faire des rafles, les Allemands ? Non seulement avec la police française, les gendarmes français, les GMR et tout, mais avec toute la clique des organisations fascistes. Il y avait 120 000 adhérents à la cagoule, c'est pas Annie Lacroix-Riss qui le dit, c'est le chef des enquêtes de 36-39. Il y en a eu un paquet énorme qui est venu aider les Allemands. Dès qu'il y a eu résistance active, il y a eu le phénomène des otages.
Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. 2 morts. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. 50 autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts.
Avec cette résistance active, les Allemands sont extrêmement gênés. On a une action efficace qui est une action militaire. Donc quand, par exemple, je me fais insulter parce que je dis que tel historien comme Olivier Fievurka, qui dénie à la résistance française toute valeur militaire, se moque du monde en nous disant que ce sont les Américains qui ont libéré la France, je dis, moi, que les archives sont formelles à cet égard.
Chez la plupart des historiens médiatiques d'aujourd'hui, avec la réhabilitation de Vichy et de Pétain, il est aussi de bon ton de rabaisser le rôle de la résistance française, donc communiste. Et on se moque du PC et de son slogan du parti des 75 000 fusillés. Mais en additionnant fusillés et déportés communistes français, ça fait combien de victimes chez les Rouges ?
On n'en sait rien, combien en tout ? 40 000, 60 000 fusillés, plus les déportés. Écoutez, je vais prendre une source alors, qui n'est particulièrement pas subversive. C'est le recueil Siret de la situation économique de la France, 47. Il table sur 100 000 juifs. Il y en a eu 75 000. On établit le nombre de fusillés déportés de l'ordre de 60 000. On n'est pas si loin. Alors, ils n'étaient pas tous encartés. Ben non. Et puis, il y a des gens qui n'étaient pas FTP et qui ont été inclus. Le rapport de police, c'est 1 pour 12, 1 pour 16 non-communistes. On n'est pas dans la situation de savoir s'ils avaient pris leur carte en 39. La plupart n'avaient pas leur carte. Mais, comme dit le haut fonctionnaire de la SNCF, il n'était pas possible d'aller ailleurs que chez ce que les préfets appelaient les terroristes, les communistes, pour faire de la résistance active. On va me dire, oh ben non, elle exagère, elle a pris un rapport. Eh ben, on va en prendre d'autres. Correspondance allemande, correspondance de Vichy, correspondance de Londres. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette correspondance ? Unanime. Elle nous dit, quand on est prolo, quand on est employé, quand on est pauvre, très pauvre, qu'on n'a plus de chaussures à ses pieds, parce que le plan cuir, à partir de 40, il prévoyait une paire de chaussures tous les 8 ans. Donc, les ouvriers, il n'a plus de chaussures, il n'a plus de vêtements. Un prolétaire, il se baladait comment pendant la guerre ? Il se baladait avec un vélo, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Comme les Allemands, ils achetaient tout, enfin, avec nos sous, hein. Le Reich, lui, n'a rien payé. C'est nous qui avons payé, hein, par les frais d'occupation. Les propriétaires privés de moyens de production, c'est l'État qui leur paie. C'est le mécanisme qui permet de rémunérer les industriels et banquiers français pendant que les Français n'ont pratiquement plus de quoi s'habiller, se chauffer. Dans la correspondance, qu'est-ce qu'on saisit ? C'est qu'on ne peut pas être très collabo quand on est comme ça. Et là, je parle surtout de la classe ouvrière. Qui est-ce qui s'est battu dans la guerre ? Qui est-ce qui s'est battu contre les patrons ? Qui est-ce qui s'est battu contre l'État ? Qui est-ce qui a toujours été persécuté ? Ce sont les gens qui se sont battus, et en particulier entre 34 et 38, qui évidemment sont tous fichés. Avant la Première Guerre mondiale, le fameux carnet B, c'est la liste des meneurs des usines. Ces ouvriers syndiqués, ou qui sont râleurs, ou qui de temps en temps participent à une grève, on a leur liste. Et même ce carnet B, en 1914, il est question de l'utiliser pour mettre au trou tous les leaders ouvriers, syndicaux, des fois qu'ils auraient l'idée de dire « Dressez-vous contre la guerre impérialiste, allez-y ». Le carnet B, il existe. Il suffit d'aller regarder les archives policières. Il est alimenté tous les jours par les contacts entre les patrons et la police. Moi, je l'ai montré en particulier dans le cas Renault, parce que j'ai travaillé sur les archives Renault de la préfecture de police. Tous les jours, la direction générale, le neveu par alliance de Renault, François Le Hideux, tous les jours, il discute avec le préfet de police, le préfet de la Seine, qui sont à ses petits soins, et à qui il dit « arrêtez celui-là » et tous les jours. En 42, il y a à peu près 20 000 ouvriers chez Renault. On a la correspondance quasi quotidienne entre la direction des entreprises et la police. Il y a des ouvriers qui sont convoqués à la police, comme ça se fait tous les jours, parce qu'on a trouvé dans les toilettes « abat l'Allemagne »,« pas un travailleur pour l'Allemagne », tout ça. À chaque fois, commence une enquête... On boucle ceux dont on peut soupçonner qu'ils sont encore un peu communistes. Comment on s'imagine que les Allemands, ils ont déporté, hein, et c'est pas avec leurs 3000 flics, hein, c'est avec les nôtres, on le sait. Et donc, l'enquête est faite et on mène un gars dont on sait qu'autrefois il a été un peu coucou, enfin il a été un peu agité en 36-38. On l'emmène au commissariat de Boulogne-Billancourt. Il y a un fichier de 20 000 personnes entièrement à jour. Et le gars, c'est un gars bien. Donc, non, je connais personne, je ne suis pas au courant, tout ça. C'est la résistance qui se fait partout. Et c'est cette résistance-là qui est devenue la résistance contre l'Allemagne. J'ai consulté les rapports des préfets, les rapports allemands. Et qu'est-ce que j'en tire ? La résistance active, la résistance objet de répression effroyable, cette résistance-là, c'est une résistance ouvrière. On a régulier des instances de police française, ministère de l'Intérieur, pour la région parisienne, qui est une grosse région ouvrière. On a les rapports de quinzaine de la préfecture de police au service de police allemand. Il y en a d'autres, toutes les semaines, tout ça. Moi, j'ai consulté ceux de 15 jours. La collaboration policière, elle existe avant la guerre. Quand les chefs policiers se repointent en juin-juillet 1940 à Paris, terrain conquis, et ils sont en terrain familier, puisqu'ils discutaient avant avec les petits camarades très haut gradés de la police. Bon, la démonstration n'est plus à faire, je l'ai faite, avérée par des archives policières. On a la preuve que la répression, qui est une répression patronale, qui est une répression étatique, qui est une répression allemande, elle s'est concentrée sur les lutteurs. Et alors, ça donne quoi dans les rapports de quinzaine ? 12 pages sur les arrestations, entre 12 et 16 en moyenne. On a toutes les arrestations de militants communistes sur 12 pages. Il y a 11 pages pour les cocos. Ce qu'on appelle la résistance gaulliste, c'est tout ce qui n'est pas communiste. Hein. Je ne sais même pas si une fois, il y a sur 16 pages, il y a 2 pages de résistance gaulliste. Quand non-résistantes entrent plus massivement dans la résistance d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas comme les communistes, hein, en étant incité à prendre le revolver pour tuer des Allemands et faire en sorte qu'il n'y ait plus un Allemand qui se sente en sécurité dans une France occupée. C'est ça la ligne. Hein. Ce n'est pas simplement faire plaisir à Staline, c'est faire en sorte qu'ils aient la trouille, qu'ils soient mal en France. Et ils ont été très mal, hein. Comme c'est attesté par les remarquables rapports allemands, et notamment ceux d'Abetz. Ils ont la trouille de se bouger. À partir de 43, c'est terrible. Bon. À partir de 42, parce que ces couches sociales ont tendance, hein. Il y a toujours le Pékin qui est un petit peu exceptionnel. Mais il ne faut pas s'imaginer que l'histoire sociale, c'est une histoire surprenante. C'est une histoire de masse. Et donc, qu'est-ce qui ressort de l'ensemble de cette documentation allemande, française vichyste, française gaulliste, il ressort que la résistance active a été la résistance des résistants d'avant-guerre. À partir du moment où, en septembre 42, et surtout avec le décret de février 43, il y a des gamins mobilisables pour le travail obligatoire, sanction de l'échec militaire allemand. Parce que comme il n'y a rien à faire pour dégommer les soviets, hein, c'est bien joli de leur infliger en tout entre 27 et 30 millions de morts, mais ça n'a pas suffi pour gagner la guerre. Donc, entre 1940 et 1944, il y a eu, dans une Allemagne qui n'aimait pas les étrangers, 14 millions de travailleurs étrangers. Je n'ai pas dit que j'étais 14 millions en même temps, mais on ne pouvait pas mobiliser les braves garçons allemands pour aller combattre les soviets et puis les laisser à l'usine. Hein. À partir de 43, bien entendu, que les communistes se trouvent renforcés par une masse considérable. Je vais utiliser un texte que j'adore. Ce rapport extraordinaire d'un haut cadre de la SNCF qui montre bien que si on est cheminot et qu'on veut résister en 42-43 et même avant d'ailleurs, c'est pas possible de faire autrement que d'aller chez les FTP. Franc-tireurs partisans français, Front National, constitué depuis mai 41, pas juin 41, avec leur section, évidemment, d'étrangers, parce que c'est tout à l'honneur de cette résistance active, et particulièrement à l'honneur dans une période de crise où on nous refait le coup de l'étranger vilain, coupable, pas intégré, tout ça, alors que dans cette résistance communiste ou communisante, la surreprésentation des étrangers a été énorme. c'est cette main-d'œuvre immigrée dont le Parti communiste a su faire un élément majeur des mobilisations ouvrières de 1936.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges.
La résistance française communiste compte dans ses rangs de très nombreux étrangers. On atteste par exemple la célèbre affiche rouge qui montre des terroristes, parfois bien bronzés, avec des noms potes chez nous comme Manoukian, Rayman ou Alfonso. Sans les métèques espagnols, italiens, polonais et autres arméniens, et parfois juifs, des FTP Moy, main-d'œuvre immigrée, la résistance active à Paris aurait été insignifiante.
Ceux qui s'étaient battus le mieux avant la guerre se sont battus pendant. Quel a été le fer de lance de la résistance militaire active? Les survivants des brigades internationales, parce qu'en 1938, Georges Bonnet...
Bonnet, pro-nazi du Parti radical, ministre des Finances, puis des Affaires étrangères, l'un des artisans du honteux pacte de non-agression passé par la France avec Hitler aux accords de Munich de 1938.
Cette émanation des banques, un traître au sens juridique du terme, hein, l'intelligence avec l'ennemi, ricanait avec l'ambassadeur du Reich. Oh, 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 je suis bien content, la banlieue rouge perd de ses effectifs, ils tombent comme des mouches en Espagne. Il en est resté quand même. Et qui est-ce qui s'est remobilisé comme un seul homme, qui a d'abord été mobilisé dans les comités de lutte syndicale pour essayer évidemment de parer aux conséquences de la mise hors la loi des éléments communistes de la CGT après la signature du pacte de non-agression germano-soviétique, hein. Parce que la répression anticommuniste, elle ne change pas de nature en 1941. C'est la même répression anticommuniste, c'est les militants qui sont au trou dans l'illégalité, voire à l'extérieur, hein, comme Torres qui est allé, lui, en URSS. Les militants sont illégaux. L'essentiel des arrestations et des mises en prison, elle a commencé à partir d'août, plus encore à partir du décret-loi d'Aladier du 26 septembre 1939. Et on a des listes qui se modifient même peu à l'époque des Allemands, parce que c'est les mêmes cibles. C'est sur les mêmes listes qu'on continue quand c'est avec les Allemands à partir de juillet 1940. Comment est-il possible qu'on soit dans une situation historiographique où les sources disent tout et où finalement on ne peut pas dire ce qu'il y a dedans? Ce qui d'ailleurs montre l'hypocrisie inouïe d'un certain nombre d'historiens qui se sont mis à l'avant-garde de la lutte contre la synarchie qui est un mythe, qui ont ricané sur le complot contre la République, etc. et qui viennent dire « Oh là là, ce que l'État est vilain maintenant, il nous ferme les archives. » Qu'est-ce que mes collègues ont fait concrètement pour que nos jeunes étudiants puissent avoir accès à ces sources qui sont maintenant bouclées, menacées de l'être? À partir de 34. Parce qu'à partir de 34, on rentre dans la phase exécutoire du complot contre la République. Le 6 février 34, c'est pas les bons bourgeois de Paris, petits bourgeois qui sont outrés par la pourriture parlementaire. La pourriture parlementaire, les plus puissants d'entre eux, c'est eux qui l'ont organisé, qui ont fait des parlementaires des espèces de pantins de la grande bourgeoisie. C'est la première tentative de putsch contre la République. On ne peut pas dénoncer le mythe de l'État profond en disant que voilà, faut pas fermer les archives parce que sinon on va favoriser les complotistes. Alors que ça fait 21 ans que les archives sont ouvertes sur les années 30. Qu'on m'explique quels travaux ont été développés grâce à nos élites universitaires depuis 1999. Il n'y en a pas. Parce que c'est interdit aux doctorants. Sujet tabou.
Dès l'été 41, la résistance armée, c'est donc les communistes. Attentats et sabotages. Et en représailles, exécution d'otages, souvent communistes, et souvent mis en prison par les Français eux-mêmes dès 1939. Sur Radio Londres, De Gaulle demande qu'on attende le débarquement allié pour entamer le combat militaire.
Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Mais il y a une tactique à la guerre. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. C'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes, momentanément désarmés.
Il était bien gentil, De Gaulle. Il était quand même très content qu'il existât cette résistance ouvrière, très content qu'existât le combat de résistance énorme de l'Union soviétique, parce que c'est ça qu'il a imposé face aux Américains. De Gaulle n'est pas à une contradiction près, hein. Il s'offre l'avantage de n'être le chef de la résistance qu'à cause de cette résistance ouvrière. Moulin a eu le courage de le penser et de dire à De Gaulle, sans les communistes, vous ne serez pas le chef de la résistance. Or, les communistes, vous n'avez pas de soutien. Pas le soutien de la bourgeoisie. Bon, la question ne se pose pas, hein, tous les rapports le disent. Elle s'est goinfrée avec la collaboration. Pourquoi vous pouvez vous imposer aux Américains? Ben parce que vous avez une résistance intérieure qui fait des attentats et surtout qui fait des sabotages. La seule efficacité industrielle de résistance qui est une influence sur l'économie de guerre allemande, c'est le sabotage. Et il y avait là-dessus un consensus entre les forces de répression françaises, la correspondance avec Londres, et les Allemands sont très clairs. On a des rapports d'Abetz de 1943. C'est là qu'on comprend ce que c'est, du point de vue de l'ennemi, ce que c'est que la résistance. C'est-à-dire que Abetz, il explique. Il y a eu des extraordinaires explosions, attentats de la part des résistants qui coinçaient une usine pendant 2 mois, 3 mois.
Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté. Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. Le sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français. Il était 2 heures de l'après-midi. Soudainement, Rennes comptait 262 morts, dont 75 femmes et 43 enfants, et 500 blessés. La cité bretonne en deuil fait aux victimes de l'aviation américaine d'émouvantes obsèques. Avec un acharnement furieux, les monstres ont semé la ruine et la mort.
Les bombardements, ça tuait les prolos, parce que les Américains, enfin les Anglais aussi, hein, mais les Américains c'était bien pire, hein, ils se baladaient à 10 000 mètres au-dessus. Les bombardements américains n'ont jamais, jamais, jamais porté atteinte à l'économie de guerre allemande. Jamais. Ils ont été meurtriers pour les ouvriers. Les bombardements de mars 42, chez Renault, plus de 1000 morts. Ça se faisait souvent, usine ouverte, même pas de nuit. Ça ne changeait rien. On avait cassé une grosse partie de Boulogne-Billancourt. Louis Renault a relancé l'usine qui l'intéressait plus, du Mans. Le bombardement d'un nœud ferroviaire s'était réparé en 2-3 jours. Les bombardements anglo-américains sont une catastrophe pour la résistance. Pas de distribution d'armes aux résistants. On réserve les distributions d'armes à ce qui est contrôlé par l'armée. En 43, il n'y a encore pratiquement aucune activité pour des mouvements contrôlé par l'armée, dont on nous explique c'est les anciens sentiers de jeunesse, c'est-à-dire les institutions vichistes, hein, dans lesquelles on a collé des enfants de la bourgeoisie. On nous explique que c'est dans les maquis, c'est une force équivalente. Moi, j'ai quand même montré des pièces qui disent, en mai juin 44, ce n'est pas encore opérationnel. Et on s'imagine que ces couches sociales, elles se retrouvaient dans des réunions, puis tout le monde était d'accord. Et bien sûr que non. C'est pas parce que Marx est un gros vilain qui crée les luttes de classe. C'est pas les marxistes qui créent les luttes de classe. C'est les conditions objectives qui créent les luttes de classe. Et par conséquent, je suis formel, il n'y en a que sa fâche, ils se défâcheront. Hein. La résistance active, comme les archives étatiques, militaires le prouvent, cette résistance est une résistance populaire à base ouvrière fondamentale. Dernier exemple, le rapport du général Bétoire. Vichiste, cagoulard, qui a comploté contre la République. Je dis ça, bien sûr, sur la base des sources. Mon bon Bétoire, en mai 44, alors même que les rapports se multiplient de toutes les villes de France, qui disent, si les Américains débarquent pas maintenant, il y a une haine contre eux qui est effrayante. Je rappelle, les bombardements. 75 000 morts, en pure perte. Et mon Bétoire, qu'est-ce qu'il dit ? Actuellement, le front en Europe, voilà ce que c'est. 6% sur le front italien, ça c'est les anglo-américains. Il paraît que c'est eux qui nous ont libérés. Bon, 6%. Théoriquement, les forces anglo-américaines, là, elles sont tout autour de l'Europe, là, bon. 65% de front de l'Est. Le reste, c'est-à-dire un tiers, c'est les résistances intérieures. On regarde le cas italien. On regarde le cas français, on a les mêmes. Les pauvres, les prolos, ceux qui étaient organisés avant, avec quelques intellectuels, il n'y en a pas eu beaucoup, ailleurs que chez les communistes.
Conséquence de l'hégémonie de la résistance communiste sans laquelle De Gaulle ne pèse rien, le général charge Jean Moulin d'unifier la résistance, donc d'amener les Rouges à le reconnaître comme chef. Pour certains résistants viscéralement anti-bolcheviques, cette union avec les cocos est un crime que Jean Moulin paiera de sa vie. De fait, ce sont les communistes qui, en 1944, rédigent le programme du CNR, Conseil National de la Résistance, auquel sont bien forcés d'adhérer les autres partis et leurs mouvements de résistance, parfois très très tardives, qui ne combattent pas toujours beaucoup, mais qui préparent la paix américaine et des postes.
Quand il est question d'un programme, les communistes voudraient exécuter le maximum, un programme de transformation. Ils l'ont répété toute la guerre. Donc ça fait le programme du CNR. Parce que le CNR, Conseil National de la Résistance, qui se réunit fin mai 1943, ce sont donc les mouvements officiels, mais soyons raisonnables, des mouvements officiels. Il y en a qui sont à la résistance active, vraiment active, c'est-à-dire la résistance militaire, si modeste qu'elle soit à un moment. Elle commence à l'été 41, ça personne ne le niera. Elle ne se résout pas à la résistance militaire, la résistance. Mais la lutte militaire, elle commence essentiellement à partir de l'été 41. Qui est-ce qui est dans la résistance militaire à partir de 41 ? Jusque fin 42, pas grand monde. À partir de fin 42, débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. À partir de l'Afrique du Nord, les anglo-américains, et surtout les américains, vont entrer dans le territoire européen. C'est pas original de toute façon. En 1918, comment ils sont entrés en Europe, les américains? Par la France. En 1900, on sait pas quand, ils entreront par la France. Pays qui ouvre le contrôle à la maîtrise du continent européen. Dans cette conjoncture, il y a des gens dans la résistance, j'allais dire depuis toujours, qui risquent tous les jours leur vie. S'ils sont pris, ceux-là, ils meurent. Camp de concentration, mais sinon, ils sont exécutés tout de suite. Il y a ceux-là qui sont dans la résistance active depuis l'été 41. Il y a la résistance socialiste via, par exemple, combat, mouvement dans lequel se retrouvent des éléments très à droite, Henri Frenay est un caboulard. Il a été vichiste jusqu'au moment où il devient officiellement résistant. Mais vichiste, vichiste, hein ? Et ces gens-là, ils sont finalement à la remorque de la très grande bourgeoisie. Certes, les Allemands, c'est de plus en plus désagréable qu'ils soient en France. Donc tout le monde est d'accord quand même pour qu'on finisse par se débarrasser des Allemands. Mais qu'est-ce qu'on fera après ? Eh bien, on comptera sur les Américains. Donc c'est une résistance dont le rôle militaire est extrêmement faible, qui prépare l'avenir en revanche, qui prépare les postes. Il faut me les trouver, les dirigeants militaires éminents issus de la SFIO. Il n'y en a pas. Bon. Et puis toute la droite, qui à partir de fin 42 ou début 43, officiellement rejoint la résistance. Alors on retrouve les héritiers de tous les partis. Évidemment, en tant que tel, le Parti communiste, hein, qui n'a pas à se dissimuler, et puis les partis classiques qui sont issus de l'Alliance démocratique et de la Fédération républicaine, l'Alliance démocratique de Flandin et de Reynaud, et la Fédération républicaine de Louis Marin, qui était le parti des deux Vindel.
Les deux Vindel, dynastie de gros industriels de la sidérurgie, traîtres et gros collabos qui entendent bien continuer à s'enrichir après la libération, ce qui sera le cas. Autour du CNR s'agglutine donc une improbable coalition de gens que tout oppose.
Qui peut raisonnablement penser que les conditions de l'occupation ont rendu plus proches les uns des autres ces gens ? Comme ce sont les communistes qui ont l'hégémonie, vous faites comment quand il n'y en a qu'un qui lutte ? Il la conquiert de fait, l'hégémonie. C'est le constat d'ailleurs qu'avait fait Moulin. Mais c'est eux qui sont la résistance active. On se retrouve avec un véritable maelstrom dans lequel les communistes ont l'initiative. Parce que jusqu'à la libération de Paris, ils l'ont. Pourquoi vous croyez qu'en France, on a libéré Paris ? C'est que, à partir de 1944, tout le monde est résistant. Je recommande d'ailleurs de lire un petit bijou, François Bloch-Lenné, caricature de la réaction française, qui est celui qui a porté sur les fonts baptismaux le véritable pro-collaboration qui a été Robert Schuman. C'est les archives qui sont au vitriol. Parce que Robert Schuman, grand héros de l'Europe, c'est un personnage effroyable. Qui est-ce qui a fait de Robert Schuman un ministre, entre autres? C'est Bloch-Lenné. Bloch-Lenné, c'est un synarque, mais comme il est d'origine juive, voilà, il n'a pas perdu son poste, lui d'ailleurs. On le célèbre comme un grand résistant parce qu'à partir de 1943, il recueille des sous pour De Gaulle. Bah oui. Parce qu'à partir de 1943, la grande bourgeoisie, avec beaucoup de peine, mais elle le sait bien qu'elle va devoir avaler De Gaulle malgré tous ses efforts pour essayer de se passer de lui. Eh bien, mon Bloch-Lenné, qu'est-ce qu'il raconte ? Dans un ouvrage qui s'appelle « Profession fonctionnaire », en particulier, raconte la libération de Paris. Et il explique comment des types qui n'ont jamais résisté aux Allemands, et notamment les inspecteurs des finances, parer des plumes de la résistance en faisant semblant d'avoir participé à la libération de Paris. Il y a une dame qui a pris une balle perdue à la fenêtre du ministère des Finances, qui a été après célébrée tous les ans comme une grande résistante. Et il dit, nous avons fait cette petite imposture parce que nous ne pouvions quand même pas laisser au Parti communiste le mérite d'avoir libéré Paris. C'est les résistants communistes qui ont libéré Paris. C'est ça la vérité qu'on n'a plus le droit de dire parce que on passe pour un méchant subversif, éventuellement complotiste et rouge-brun si on le dit. Mais la vérité, c'est ça. Que tout un chacun savait en 1944 et qui est aujourd'hui renforcé par la maîtrise qu'on n'avait pas en 1944 de tous les types de sources concordantes. Parce qu'on assiste à ce paradoxe. On est maintenant dans une période où, alors qu'on a tout sous la main, que l'État d'ailleurs veut nous barboter, puisque par ces temps-ci, il a décrété qu'il faut vérifier tous les dossiers depuis 1930 pour savoir si on peut les communiquer aux chercheurs, on a ça depuis les années 90, et même quelquefois 80, parce que moi j'ai fait mes premiers articles sur la collaboration et la non-épuration des banques à partir de dossiers qu'on m'a ouverts en 83. Voilà la réalité qui est aujourd'hui indicible, parce que vous avez une historiographie qui a passé son temps à dire que c'est interclassiste la résistance. Non, la résistance n'a pas été interclassiste, pas du tout. Et quand il s'est agi de discuter sur le fameux programme de ce conglomérat loufoque qu'on appelait le Conseil national de la résistance, quand s'est posé la question, après les horreurs décrites notamment sur la livraison de Jean Moulin, et dont les résistants n'ignoraient rien, c'est les communistes qui l'ont rédigé le programme, c'est Pierre Villon, de son vrai nom Gainsbourg, le compagnon de Marie-Claude Vaillant-Couturier, revenu à 30 kilos de Ravensbrück. Que quelqu'un lise le plan d'action immédiate et qu'il m'explique que ce n'est pas les communistes qui l'ont rédigé. Ça sent par tous les pores. Hein. Développer la lutte contre la déportation, aider les réfractaires à se cacher, traquer, punir les agents de la Gestapo, de la milice de Darnan, les moussards et les traîtres. C'est de qui ce vocabulaire ? Hein ? Développer l'esprit de lutte effective pour la répression des nazis et des fascistes pour préparer l'insurrection nationale. C'est pas communiste ça, alors que De Gaulle n'arrête pas de dire qu'il faut attendre les alliés. Pourquoi les villes ont été libérées en France, et notamment Paris ? Ben parce qu'il y avait une résistance communiste qui a contredit la demande de trêve avec les Allemands, en faveur de laquelle s'étaient entendues toutes les autres forces politiques, et que les communistes ont dit pas du tout, on n'attend pas les Américains. C'est tellement vrai à contrario que, par exemple, le gouvernement de Londres, polonais, quintessence de la réaction polonaise, c'est-à-dire de tous les responsables qui ont jeté leur pays dans la gueule du loup allemand. J'ai fait, je crois, assez de travaux sur la base d'archives, et notamment d'archives allemandes concernant la Pologne, que je ne pense pas que ce point puisse être contesté. Pourquoi est-ce qu'ils ont lancé l'insurrection prématurée de Varsovie ? Parce qu'il ne fallait surtout pas laisser rentrer d'abord les soviétiques à Varsovie. C'est-à-dire qu'ils ont livré leurs forces militaires résistantes à une répression effroyable. Or, l'URSS n'a pas du tout déserté Varsovie. D'une part, cette insurrection est prématurée. D'autre part, l'URSS a tellement étendu son front qu'elle est incapable d'arriver à Varsovie en temps et en heure. C'est précisément parce qu'elle n'est pas en mesure d'arriver à Varsovie qu'il lance l'insurrection. Pour après accuser l'Union soviétique. Toute libération de territoire a été accompagnée d'arrière-pensées politiques. De Gaulle, et je dirais toutes les forces non communistes, et pour De Gaulle avec détestation des Américains et des Anglais, hein, étaient bien entendu d'accord pour la trêve à Paris à partir du 20 août. Cette trêve a été rendue impossible. Chez nous, a été le fruit de la supériorité numérique et pratique et politique à ce moment-là des forces communistes qui ont permis de casser la trêve et de libérer Paris avant que n'arrivent les troupes américaines, françaises et anglaises. Et si on en doute, on va chercher du côté des adversaires les plus résolus des communistes qui disent la même chose, comme Bloch l'aîné, qui dit on n'a pas pu les empêcher de participer à la libération de Paris, ben qu'est-ce qu'on a fait ? On a mobilisé nos inspecteurs des finances pour faire croire que les inspecteurs des finances allaient résister.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple. Libéré par ton peuple, libéré par ton peuple.
Toujours avec l'historienne Annie Lacroix-Riss, qui, avec ses impitoyables archives, a élucidé le mystère de l'assassinat de Jean Moulin, chargé par De Gaulle de convaincre les communistes de s'unir à sa cause.
La clarté sur l'affaire Moulin, je l'ai faite, hein, de manière absolument incontestable. C'est-à-dire que mon éditeur, il aurait même pu mettre un petit bandeau, l'affaire Moulin enfin éclaircie. La position de De Gaulle est paradoxale, parce que De Gaulle, évidemment, sociologiquement, est un homme de la bourgeoisie et qui est clairement attentiste, tout en luttant contre les Alliés, parce que les Américains ne rêvent que de l'écraser et les Anglais ne le soutiennent pas beaucoup. Bien entendu, il est attentiste. D'ailleurs, il lui arrive de prendre position contre les attentats à partir du deuxième semestre 1941. Mais de Gaulle, il a besoin de deux choses pour s'imposer aux Américains. Il a besoin de la force soviétique, de la force militaire qui va écraser la Wehrmacht, même si son effort politique essentiel est en France. Et sauf à être balayé comme les Américains voudraient l'obtenir, il a comme obligation d'être considéré comme le dirigeant de la résistance intérieure. Mais de 41 à 43, c'est qui ? C'est quoi la résistance intérieure ? C'est de quoi Jean Moulin est le porte-parole ? Parce que Jean Moulin, c'est le seul préfet qui se soit opposé aux Allemands. Le seul, puisque quand ils sont arrivés dans sa bonne préfecture de Chartres, il a même tenté de se suicider. Ce sont les stigmates de cette tentative de suicide qui lui ont valu de se balader avec une écharpe. Il faut voir ce qu'est le caractère exceptionnel de Jean Moulin. Quel qu'ait été son anticommunisme antérieur, enfin, il est d'une famille bourgeoise. Or, Moulin a compris qu'on ne pouvait pas obtenir la moindre autonomie d'avenir pour la France, et surtout pas d'ailleurs de pouvoir pour De Gaulle, sans intégrer la résistance communiste. Si on n'intègre pas de résistance communiste, il n'y a pas de résistance intérieure. Il n'y en a pas. Alors De Gaulle, il disait Moulin, il a besoin de la caution de ce seul résistant ex-préfet. Et par conséquent, il doit être reconnu par la résistance intérieure. Ça veut dire qu'il faut qu'il bénéficie de la neutralité bienveillante minimale des communistes. C'est eux qui se battent contre les Allemands. On peut dire que c'est une suite de tours, parce que tout communiste considère qu'il a pour devoir sacré de défendre la patrie du socialisme, certes, mais la ligne des communistes, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, c'est que l'occupant ne soit plus en sécurité nulle part. Ce qui est obtenu, je le démontre par les archives allemandes. À partir de 1943, c'est intenable, hein. Les Allemands ne se sentent plus en sécurité nulle part en France.
Jean Moulin est capturé, torturé et assassiné par le flic SS Klaus Barbie. Mais c'est René Hardy, un Français du mouvement Combat, qui a trahi et livré Moulin aux nazis. Dirigé par l'ex-cagoulard et ex-vichiste Pierre Fresnay, et bien que discrètement créé en 1941, Combat n'entre dans le combat qu'en 1943, financé par les services secrets des Américains qui, bien entendu, ne veulent ni des communistes, ni de Gaulle. Marionnette des USA, Combat est donc anti-rouge et anti-gaulliste. Annie Lacroix-Riz a trouvé dans les archives des traces de tractations entre les dirigeants de Combat, les USA et les nazis. Car dès l'été 1941, dès l'échec du blitzkrieg allemand contre l'URSS, partout en haut lieu, on déduit que l'Allemagne va perdre la guerre. Hitler lui-même comprend dès janvier 1942 que son Troisième Reich n'en a plus pour très longtemps et que le monde d'après sera sous domination américaine. Or, même en sachant qu'ils vont perdre, les nazis entendent quand même exterminer tout un tas de gens avant leur défaite, et notamment les communistes. Alors que les combats font rage, les Allemands négocient donc avec les Américains.
La césure essentielle de la guerre, c'est juillet 1941. C'est le moment, comme le dit le général Doyen dans une lettre à Pétain du 16 juillet 1941, tout le monde en haut lieu comprend que les Allemands sont cuits. Les Allemands ne sont pas plus cornichons que les autres, hein. Les Allemands savent très bien qu'ils sont cuits. Hitler reconnaît en janvier 1942 que c'est fini. J'ai produit les preuves. Bon, Moulin, De Gaulle en a besoin. Il est d'ailleurs aussi dangereux pour De Gaulle. Moulin, allié avec les communistes, ça peut être un rival, mais on va innocenter de Gaulle parce que les coupables avérés sont incontestables. Ils ont été révélés en partie par Pierre Péan.
Pierre Péan, excellent journaliste d'investigation qui s'est rendu célèbre en rappelant le passé vichiste de François Mitterrand.
Il y a un ouvrage qui s'appelle « Vise et mort » de Jean Moulin, dans lequel énormément de choses sont avancées, dont un aveu de Barbie de 1983. Barbie explique comment il est entré en relation avec la résistance non communiste à partir du début de 1943. Barbie dit « Le danger communiste devient trop fort, il faut négocier entre Américains et Allemands. » Que dit Barbie ? On négocie contre la résistance communiste, suivie comme le lait sur le feu par Olin Dulles, grand espion et grand financier, puisque c'est un des associés d'un des plus grands, sinon le plus grand cabinet d'affaires impliqué dans les affaires d'Europe centrale et particulièrement dans les affaires allemandes, la Sullivan et Cromwell, dont le cabinet a fait l'essentiel de ses affaires dans l'entre-deux-guerres avec le Reich, pré-hitlérien et hitlérien. Il s'installe à Berne pour rebâtir l'Europe, toute l'Europe. Les Américains pensent à ce moment-là qu'il n'y aura pas de zone soviétique. Ils pensent que l'URSS est tellement anéantie que de toute façon, il n'y arrivera pas. Alors, Dulles prend langue avec ce qu'on appelle la résistance non communiste. Et à partir de début 1943, Dulles finance 25 millions par mois la résistance non communiste, récente, hein, récente. Et on discute à Berne, bien sûr. Hein. Et donc, 25 millions par mois, à double effet, combattre De Gaulle et combattre les communistes, ça va de soi. Mais j'insiste, combattre De Gaulle autant, parce qu'ils ne veulent pas De Gaulle. Ils veulent ce que j'ai appelé un Vichy sans Vichy, c'est un Vichy avec Vichy. Bon. Et donc, entre Péan, les archives, et notamment les archives de justice, sont peut-être aujourd'hui catégoriques. La lettre de 83 de Barbie, dans laquelle il raconte qu'il a pris langue avec les Américains et avec les résistants non communistes pour qu'un accord soit signé qui permettrait d'épargner la résistance non communiste et de livrer les communistes et tout ce qu'on peut assimiler. Évidemment que Moulin, il est assimilable à la résistance communiste, il ne veut pas faire la guerre contre les communistes. Qu'est-ce qui se passe ? Démontré par les archives, dossier René Hardy, bébé 18 du ministère de la Justice. Henri Frenet et Bénouville, tous deux cagoulards, anticommunistes jurés et anti-gaullistes jurés, ont passé accord avec Barbie pour que deux rivaux essentiels soient éliminés. De Lestrin, dont Frenet rêvait de prendre la place militaire, et Moulin. Ce dossier a été consciencieusement vidé, mais il a été, quoique consciencieusement vidé, fourni de telles pièces que ce n'est pas contestable. Dulles a mitonné avec Frenet et Bénouville l'affaire qui a abouti à l'arrestation de Delestrin, puis à l'arrestation de Moulin, avec la complicité de deux résistants de combat, d'une part Multon, arrêté avant Hardy, d'autre part Hardy. Le dossier est béton. On a essentiellement dans ce dossier deux énormes pièces. Une de 46, une de 47, il y en a bien d'autres, hein, mais par lesquelles s'exprime Boissary, procureur général depuis l'été 44. On présente donc les éléments, je le répète, sur la trahison de René Hardy, sur ses tractations avec les Allemands, dont Barbie, sur ses tractations avec Frenet, qui d'ailleurs, avant l'arrestation de Moulin du 21 juin 43, s'en va à Alger, où De Gaulle, parfaitement informé, va en faire un commissaire aux prisonniers réfugiés et déportés. Il faut le faire quand même, hein, en toute connaissance de cause. L'accord qui est passé avant livraison, c'est un accord en vertu duquel nos hommes, comme dit le colonel Davet, dont je raconte en partie l'histoire dans La non-épuration, comment Barbie sauvera nos hommes, c'est-à-dire laissera tranquilles les gens de combat, en tout cas les bons copains de Freinet et de Bénouville, et fera tuer les autres. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'a été bousillé le procès de Hardy, avec acquittement de René Hardy, et comment Boissary, dans un rapport de janvier 1947, explique comment il était impossible de faire autrement, parce que, dit-il, des trémolos dans la voix, parfaitement hypocrite, on ne peut pas avouer qu'une partie de la résistance a décidé d'en sacrifier une autre. Les trois que j'ai consacrés dans la non-épuration, exclusivement sur archive, hein, ces 30 pages de brûlot, si je suis une mauvaise historienne qui aurait dû faire l'objet d'une plainte de mes collègues, Gilles Morin, qui a assassiné en 10 pages mon livre dans des conditions ignominieuses, n'a pas dit un mot sur l'affaire Moulin. Je considère ça comme un hommage du vice à la vertu. Ces 30 pages, il y a tellement de choses que voilà, ça peut compliquer. Mais franchement, pourquoi est-ce que De Gaulle laisse faire ça? D'autant que Combat, qui touche de l'argent massivement de Delos, est anti-gaulliste. Mais De Gaulle redoute la concurrence de Moulin à terme. Quel service Moulin lui a rendu avec la constitution du Conseil national de la résistance, dont la force motrice est le Parti communiste? C'est elle qui fera le programme du CNR. Ils ont négocié le pistolet sur la tempe. Ils étaient aussi résistants que moi, brodeuse. Enfin, il y avait des gens qui avaient été collabos non résistants jusqu'en 1943 quand même dans le CNR. Il y avait tous les partis de droite se refaisant une virginité depuis fin 42, fin 43, qu'on appelle aujourd'hui les vichisto-résistants. Il n'y a pas une trace de vichisto-résistance dans les archives de 40-44. Moi, j'appelle ça les vichisto-américains. La carte allemande, elle est fichue. Maintenant, on va choisir la carte américaine. C'est ça, la réalité. Et par conséquent, l'abominable Barbie n'a pas menti. Ah ça, il n'a pas tout dit. Il a menti par omission seulement, et il a dit beaucoup de vérités dans sa lettre de 83, payant, il a quand même établi avec les aveux de Bénouville, que Bénouville et Freinet avaient été partie prenante essentielle dans la livraison et l'assassinat de Moulin. J'ai un dossier qui est béton, qui montre l'hypocrisie monstrueuse à laquelle a donné lieu la mise de Moulin au Panthéon.
Révélation d'autant plus affreuse que Jean Moulin a été accompagné au Panthéon par le président Mitterrand, ancien vichiste décoré par Pétain de l'une des 2626 francisques que le maréchal a distribué pendant son règne. Mais chut, il paraît que Mitterrand était un grand socialiste de gauche.
Quand on dit que les archives sont impitoyables, elles sont impitoyables non seulement dans leur aspect objectif, mais elles sont impitoyables pour le rigolo ou la rigolote qui décide de s'en servir. Hein.
C'est ici que se termine cet épouvantable chapitre de notre histoire de France, qui en compte quelques-uns, faut bien le dire. Une histoire telle qu'on nous la raconte surtout pas, hein, vu que notre pays n'a pas été dénazifié à la libération, ni dans les milieux d'affaires, ni chez les flics, magistrats et autres fonctionnaires collabos. Bon, on a bien fait quelques exemples, hein, mais dès 44, l'essentiel des petits et gros collabos reste en place. Annie Lacroix-Risse, qu'on remercie, nous le racontera bientôt dans cette émission, que tu peux réécouter sur notre site, Polymix et la voix off.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!
Radio G.